Vous écoutez
RMC.
65 jours, 18 heures, 10 minutes, 2 secondes. Lui aussi a pulvérisé le précédent record du Vendée Globe, mais il est deuxième de la course la plus prestigieuse au monde. Pour sa première participation, Yoann Richomme est arrivé près de 23 heures après Charlie Dalin, le grand vainqueur de cette 10e édition. Yoann Richomme est dans le studio RMC. Bonjour Yoann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Ici, avec les grandes gueules du sport, on a beaucoup de questions à vous poser, évidemment.
On a déjà commencé.
Ça a bien commencé, d'ailleurs.
Vous êtes... Oui, mais on va pas parler que de Starling, les copains.
Vous êtes
évidemment en bonne compagnie avec, vous connaissez les cyclistes, Marc Madiot, Jérôme Pinault, notre entraîneur de foot, Pascal Duprat et puis notre éditorialiste Christophe Cessieux. Première question, très simple, et vraiment une question de journaliste, c'est pour ça qu'après je passerai la main. Mais deuxième, quelques jours après, est-ce qu'il y a une petite déception ou pas du tout?
En fait, moi, je suis premier derrière Charlie Dalin, surtout.
C'est vrai.
Il faut bien le dire. Charlie, c'est quand même la référence en ce moment dans notre catégorie. Donc,
ça, c'est le média training.
Déjà l'accrocher. Ouais, non, même pas.
Ah bon?
Non. Trop content. Enfin, déjà pour en arriver là, c'est un truc de dingue. Enfin, pour resituer un peu les choses, on a commencé il y a 3 ans d'une page blanche. On n'avait pas d'équipe, pas de hangar, pas de bateau. Et on a tout reconstruit de zéro, donc c'est une équipe de quasiment 20 personnes aujourd'hui. On a construit un bateau, c'est 50 000 heures de travail. On a fait 2 saisons complètes, je le disais tout à l'heure, 4 transatlantiques, 1 tour du monde. Et on arrive là avec un bateau fiable et 2e du tour du monde. Je pense qu'on peut être que fier de ce qu'on a fait.
Est-ce que tu t'attendais à ce genre de course, une course, j'allais pas dire facile, parce que ce serait faire injure à votre métier et votre passion, mais une course aussi fluide?
Non, je pouvais pas m'y attendre. En fait, t'as raison, hein, globalement, c'était ça. Enfin, le résumé de la course, c'est qu'on a pris une tempête dans l'Indien. C'est improbable, en fait, c'est pas possible. Normalement, déjà, t'en prends deux le temps de sortir de l'Europe.
Du golfe de Gascogne, ouais.
Et non, là, c'était incroyable. Donc, relativement facile en termes de conditions. Après, je m'attendais plus à un groupe serré à l'avant, 4, 5, 6 bateaux. Je pense qu'on était vraiment 7, 8 à la base pour la victoire. Après, ben voilà, écoute. Les aléas, le rythme de course fait qu'il y en a qui lâchent au fur et à mesure et on s'est retrouvé à 3 et 2 au final.
C'était ton premier tour du monde, Yoann, là?
Première fois dans les mers du Sud, ouais.
Et est-ce que tu as pu commettre des erreurs de débutant finalement? Parce que c'est des océans très particuliers, hein, qu'on ne rencontre pas tous les jours dans l'océan Atlantique Nord. Des choses qui font qu'aujourd'hui, tu aurais peut-être pu accrocher encore un peu plus longtemps, Charlie, notamment dans la remontée de l'Atlantique Sud.
Forcément, il y a des erreurs. Du coup, ici, il a gagné, c'est qu'il en a fait moins que moi.
Aussi en raison du bateau, non?
Il y a un peu le bateau, mais.
L'impression que le bateau était le sien était un tout petit peu plus vite.
En fait, il était plus vite. Alors, on avait chacun notre
condition de mer,
notre moment favori. Donc moi, c'était la mer formée, le vent, vent arrière, vent portant, et lui, c'était plutôt face au vent. Vent moyen, quoi. Donc pour les techniciens aux alentours de 10-15 nœuds, là, il décollait avant tout le monde, mais toute la flotte. Et là, il allait vraiment très vite. Par contre, dans le gros temps, j'allais d'autant plus vite. Donc, je pense que sur un Vendée Globe dur, avec 5-6 tempêtes dans le sud et tout ça, je pense que là, il n'y avait pas photo. Ouais.
Je rappelle le sponsor.
Mais bon, après, on joue à Paris architectural 3 ans avant. Hein. Ouais. Donc, sur une anomalie météo, on ne peut pas...
Et moi, je voudrais savoir...
Marc Madiot.
Tu te blesses, par exemple, en manœuvrant ton bateau. Est-ce que tu avais, je suppose que oui, mais tu avais déjà une formation médicale pour pouvoir te soigner, te recoudre si besoin.
On leur apprend à se couper le bras même, je crois. Hein.
Pas tout à fait, pas en vrai en tout cas. Mais oui, donc on a une formation survie en mer, donc déjà tout ce qui est hypothermie, déclencher l'alerte, être sauveté, élitreuillage, passer du temps dans l'eau,
et
etc.
Par exemple, tu te casses les dents.
Tu te casses les dents, ouais, t'as un petit kit dentaire. Je sais pas ce que tu fais avec dans la réalité, mais bon, tu arrives de toute façon avec l'énergie du désespoir, t'es bien obligé. Faut savoir que quand t'es par exemple dans le Pacifique, là, pour un Nemo, là, t'es à 10 jours de mer pour toi, mais pour n'importe qui d'autre pour venir te chercher. Donc, il faut au moins tenir 10 jours. On sait très bien qu'il y a des sujets, tu tiens pas 10 jours.
Hein. On se rappelle.
Sur une appendicite.
Il y a Eliès, par exemple, qui s'était cassé la jambe au fin fond de l'océan Indien. Il a été obligé d'attendre que la marine australienne vienne le secourir. On se rappelle de Bertrand Debrun qui s'était recousu, lui. Ouais. Ah, ça, c'était
ça peut être vite chaud.
L'époque héroïque. Yoann, hier, on débattait dans cette même émission sur justement le, est-ce que cette édition du Vendée restera dans la légende? Quand on parle des grandes éditions du Vendée, on parle souvent des éditions qui ont vu des sauvetages héroïques, des moments incroyables, Dinelli évidemment, Bullimore dans les années 90, Eliès ou encore Le Cam avec Escoffier il y a 4 ans. Cette année, tant mieux pour vous, vous avez été épargné. Mais est-ce que tu ne penses pas que le Vendée Globe a besoin aussi de ce genre de choses pour exister, pour rentrer un peu plus dans la légende?
J'étais en train de réfléchir, est-ce que c'est pas le premier Vendée Globe où il n'y a pas de sauvetage? Je ne sais pas trop, mais ça ne doit pas être très loin. Ça ne doit pas être bien loin. Ça en fait la légende, donc ça fait comprendre, ça donne des exemples, je pense, pour faire comprendre la difficulté de la tâche. Après, en fait, la réalité, c'est que nous, on le souhaite à personne, ces événements-là. Et je pense que surtout ce qui a fonctionné, c'est le sport, quoi. Enfin, c'est la bagarre, c'est l'intensité de la lutte à l'avant, la compréhension, je pense, de la plupart des gens un petit peu plus à chaque fois de la stratégie, de la météo, de ce qui fait vraiment l'essence de ce sport, quoi. Donc voilà, moi j'ai plus surtout l'impression que on part à chaque fois, chaque édition, un peu plus vers le sportif et un peu moins vers l'aventure. Et moi, c'est ce qui me convient, parce que c'est ce que je vais chercher.
Yoann Richomme est notre invité exceptionnel dans le studio RMC des grandes gueules du sport, avec son bateau, pas près que Arkea. C'est important aussi de le citer, parce qu'il y a du monde derrière un marin. Pascal Duprat, une question pour notre invité.
Oui, déjà, quel plaisir d'être avec toi. Merci, Yoann. Merci, RMC. J'ai vraiment une question, parce qu'il y a un truc qui me taraude, c'est le sommeil et la récupération. Tu te souviens de la plus longue plage sans dormir pendant la course? La plus longue plage sans dormir.
Comme ça, non. Je pourrais te dire une réponse, je pense, à au moins pas loin de 48 heures, 3 jours, je pense.
Ouais, c'est ça. Ou alors, plus de 48 heures sans dormir. Voilà, c'est
zéro de sommeil, mais vraiment faible, tu vois. Le
sommeil flash de 15 secondes.
Ou les trucs où en fait, c'est tellement intense, t'es dessus, tu te dis, OK, là, je me cale une petite sieste, tu te cales, tu te lèves, et t'es relevé direct, quoi. T'as passé 5 minutes dans la banette.
Et autrement, une journée normale, c'est-à-dire, sans la journée où vous aviez les journées où vous aviez la tempête, une journée normale, tu dors combien?
On va dire 4-5 heures, je pense. À peu près. En fait, on a énormément de mal à mesurer. On essaye avec des scientifiques de mesurer le sommeil, mais en fait, on n'y arrive pas. Parce que
vous préparez à l'avance à moins dormir avant la course?
Alors non, parce qu'on a l'expérience. Quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience aurait besoin sûrement d'un peu de préparation. À titre perso, et Charlie, pareil, ça fait 15 ans qu'on fait ça.
Vous avez l'habitude.
Ouais, moi j'ai l'habitude. Moi je m'endors sur quasiment instantanément. Donc et j'arrive à faire des siestes de 20 minutes sans réveil.
Ouais, heureusement, en plus, si t'es insomniaque et marin, c'est-à-dire que tu peux pas dormir quand tu veux. Quand tu décides de dormir, tu dors pas et donc c'est pas de bol.
Ouais. Moi j'ai le chef Chaudard dans les oreillettes qui me demande la question du manger. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu as le temps de mettre une petite ligne de temps en temps après pêcher du poisson ou est-ce que tu es toujours dans le cellophane?
Elle récupérerait pas grand-chose, la pauvre ligne. Ouais. On fait 18 nœuds de moyenne autour du monde.
Donc, la pêche, on n'y pense pas.
On est loin de là. Tout est préparé à l'avance.
Non, mais imagine, tu restes en rade, tu casses ton mât, tu es au milieu du Pacifique.
Oui.
Tu n'étais pas sûr d'avoir assez à bouffer. Comment tu fais? Tu as une petite.
Je crois. Je sais même pas. Je crois que j'ai une ligne de pêche quelque part. Sinon, j'en fabrique une. Dans la réalité, il y a tellement de bouffe à bord moi, j'avais 80 jours, tu vois, on en fait 65. Ouais. Et au bout de 10 jours, j'avais fait 4 jours d'économie. Parce qu'au début, non seulement tu dors pas, mais tu bouffes pas. Les deux sont liés en plus. Ça, c'est la technique des joyaux, ça. C'est que tu manges pas pour pas dormir. Quand t'es en hypoglycémie, t'as pas sommeil.
Bonne tactique. Moi, j'ai une question et vous en avez d'autres, hein, évidemment, les GG, mais j'en ai une parce que ce qu'on reproche, oui et non, au Vendée Globe, c'est évidemment qu'on n'a pas beaucoup d'images. Alors maintenant, la communication de plus en plus, et c'est vous qui faites les reporters sur votre bateau et qui nous montrez ce que vous arrivez à voir, mais on n'imagine pas. Alors, on a des représentations, mais on n'imagine pas ce que représentent des mers du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vois dans une tempête ou non, mais de si surprenant, de si incroyable? Parce que toi aussi, tu l'as découvert.
Alors, il y a un mythe des mers du Sud, clairement. Ça, c'est sûr. Après, tu vas, là, il y en a une qui arrive, là, d'ailleurs. Tu vas dans l'Atlantique, là, au mois de janvier, demain, aux Açores, il y a 50 nœuds et 9 mètres de mer. Je peux te dire que c'est à peu près la même chose que là-bas. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes latitudes, c'est le même problème. Sauf que là-bas, en fait, les tempêtes, elles voyagent sans rencontrer de continent. du Cap Horn au Cap Horn quasiment, tu vois, enfin, tout le tour, quoi, enfin, en exagérant un peu. Après, bah, en fait, c'est l'enchaînement. Tu t'en tapes souvent. Alors, ça n'a pas été notre cas, donc je suis pas bien placé pour décrire tout ça, mais. Et après, bah, c'est la durée, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, si tu traverses l'Atlantique, nous, si on traverse l'Atlantique, on en prend pour une semaine. Là-bas, t'en prends pour 4 semaines, puisque c'est très long, en fait, du Cap de Bonne-Espérance au Cap Horn. Et c'est ça qui en rend, qui en fait un moment unique. Et je te rappelle qu'on passe l'été.
Oui.
Oui. On n'y va pas l'hiver. C'est là, je te parle de l'hiver ici. Donc en fait,
c'est faisable c'est d'ailleurs. C'est faisable de passer l'hiver.
Pour les glaces, non. Enfin, si, mais tu joues à la roulette belge. Ouais. Tu connais ça?
Non, mais ça a pas l'air sympa.
T'enlèves une balle dans le canon et tu fais tourner.
Ok. Ah, oui.
C'est l'inverse
oui,
de la roulette.
Parce qu'il y a plus de glace, il y a plus de growler et d'iceberg.
Ah bah oui. Bah déjà, il y en a eu. Je sais pas si vous avez suivi. Du coup, nous, ils nous ont fait une zone. Ouais. Donc ils détectent par satellite, ils nous font une zone, on passe. Et en fait, les glaces ont bougé plus que ce qu'ils pensaient. Et donc là, ils ont été obligés de signaler aux autres coureurs derrière où étaient les glaçons.
T'en as croisé toi les glaçons?
Non, mais apparemment, c'était pas si loin.
C'est pas si loin.
La direction de course m'a dit à 20-30 000, donc à 50 bornes, il y en avait un.
Ça, il paraît que c'est très très impressionnant. Ah, c'est vraiment croire, ouais. le truc ouais. qui fait le plus peur aux marins, plus que les
ah bah c'est complètement sournois. Hein, c'est comme, je sais pas, sur la route, t'as un sanglier qui débarque au dernier moment, tu vois. Ouais. Bam, tu te le bouffes.
C'est un gros sanglier. Ouais.
Je préfère avoir quand même un sanglier que d'être dans ton cap. Je pense que je peux mieux maîtriser.
Là, c'est fini. Hein. Si tu tapes un.
Ah oui.
Ah bah oui, là le bateau il va au fond de l'eau, c'est fini, je pense. Ah ouais. Ou alors t'as une chance énorme, hein, mais si t'arrives pleine balle sur un bout de glaçon de plusieurs tonnes, ouais. Bah non, il n'y a plus personne qui répond.
C'est arrivé à des plus gros bateaux, remarque.
Oui,
il y a longtemps.
Oui.
T'avais pas la ref et puis tu l'as eu. Jérôme Pinot, une petite question, je sais que vous en avez fait d'autres.
Moi, je m'intéresse aussi énormément à ce sport et ce qui se passe au sol. Alors, j'ai la chance de connaître.
Le vélo, c'est de la voile, comme dirait Cyril Guimard.
Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil dans le sens où on n'est pas solo et on n'est pas face à l'aventure.
Ils sont moins chargés aussi.
On va y venir.
C'est une blague.
Pascal, prépare ta question. Non, moi je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe et ce qui se passe au sol et surtout à comment tu vis ce départ. Tu l'as dit tout à l'heure hors antenne, l'angoisse c'était le départ, comment j'allais gérer ça. Le retour sur terre et comment vivent tes proches en fait. Parce que tu pars là comme ça, tout le monde flippe, j'imagine, à la maison. Parce que c'est pour eux 63 jours de flip total. Toi t'es dans ton truc, t'imagines. Et le retour. Parce que je comparais ça à des longues carrières. Quand tu fais une longue carrière, le plus dur, c'est quand t'arrêtes et que tu te retrouves à la maison.
Tu te retrouves avec ta femme, c'est ça.
Et là, c'est un peu les enfants et la gestion d'une vie de tous les jours pour retrouver ta place au sein du foyer. Et là, bah, j'imagine qu'avec ton exploit, tu arrives. Enfin, ton exploit, ta grande performance, tu arrives et tu repars.
Maison, là.
Ça se gère comment, ça?
Ouais, on l'avait prévu à l'avance. Hein, enfin, je l'avais dit à ma compagne et à mes enfants. Ben là, les 2 semaines après l'arrivée, j'avais exagéré. Je serai pas là, hein. Donc on se voit à l'arrivée, on se dit bonjour, et après je reviendrai vraiment que dans 15 jours. Quoi. Alors c'est pas vrai puisque ça sera une semaine après, mais bon quand même. Et puis ben, les obligations elles vont continuer, ça c'est sûr, parce que je suis pas encore rentré à la maison, donc je peux dire que tu vois et la ville et les écoles et les ports à Lorient et tout ça, on va tous passer voir tout le monde, hein, normal. Hein. Et faut remercier tout le monde, hein, parce qu'on est énormément soutenus autour de nous.
Mais en plus, vous avez conscience de ça. Pour nous, c'est quelque chose de quasiment héroïque ce que vous faites. C'est que quand on est dans le sport de haut niveau, comme on a tous fait autour de la table, on fait des choses tous ensemble, des sportifs, on a des footballeurs, on a des tennismen, des basketteurs. Le marin, pour nous, vous êtes hors norme, quoi. C'est-à-dire tout le monde a envie de vous parler. Ça va être dur, hein, mais tout le monde a envie de toucher un mec qui a fait le Vendée, qui est parti 65 jours.
Justement, enlève la main de sa cuisse. S'il te plaît,
Jérôme. Non, mais, tu vois, c'est un mythe. C'est au-delà du sportif de haut niveau. Okay. C'est au-delà de ça.
Et en France, on est dans l'admiration et dans le mythe du Vendée Globe. Et moi, je me pose une question. Je suis un peu déçu que le monde anglo-saxon ne soient pas aussi agressifs dans votre discipline qu'ils le sont, par exemple, sur la Coupe de l'Amérique.
C'est vrai. Donc, c'est très franco-français, t'as raison. Il y a
quelques
nationalités, quand même. J'ai pas le chiffre en tête, mais il y en avait 7-8, ouais, globalement. C'est très suivi. Alors, à une époque, on a eu une grosse vague d'anglais qui est arrivée, parce qu'il y avait une académie qui s'était montée là-bas. Ils voulaient monter des centres d'entraînement et tout. Ça nous a donné quelques très bons jeunes, dont Sam Goodchild, qui est quatrième là qui va arriver, donc c'était des gamins qui arrivaient qui parlaient pas français et on les mettait sur la solitaire du Figaro et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont complètement intégrés. C'est des potes, ils parlent français mieux que moi et tout ça. Et ils sont 4 ou 5 comme ça à nous côtoyer. Donc ça, ça a été la grosse unité, un peu l'escadron anglais qui est arrivé il y a quelques années, mais c'est retombé depuis. Alors, bah, tu connais hyper bien le sujet. Hein, enfin, comment on paye nos projets, hein, par les retombées médias, les valorisations, les trucs comme ça. Donc, quand tu vas vendre un projet à l'étranger pour une marque française, bah, c'est dur, quoi. Et l'inverse est pareil, quoi. Donc, après, avec l'internationalisation, ce sur quoi je crois que le Vendée a globalement bien appuyé, bah, ça devrait faciliter l'arrivée de marques internationales. Mais bon, c'est voilà.
Est-ce qu'il y a des reportages, par exemple, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, sur le Vendée Globe? C'est un truc qui me...
Je sais pas comment c'est suivi.
Mais d'ici avoir des reportages télé, je suis pas si sûr. Bah, peut-être sur un Sam Guchal, tu vois, là, qui va faire, s'il fait 4 au Vendée, ou 5, peu importe, c'est pas grave. Peut-être il y aura des choses, ouais, effectivement. Après, le problème, c'est que du coup, ce sport n'étant pas développé international, qu'est-ce qu'ils font pour être bon? Bah, ils font ça chez nous. Donc Boris Arman, allemand, il est basé à Lorient. Sam, il est à Lorient. Isabelle Josque, elle est à Lorient. Giancarlo Pedotti, l'italien, il est à Lorient. Enfin, tu vois, parce que en fait, la connaissance, elle est là. C'est pas aussi répandu que le vélo. Donc, nous, tous nos fournisseurs, ils sont autour de Lorient et ils sont spécialisés course large. Tu veux aller faire ça aux États-Unis, par exemple, je sais pas.
Pas capable.
Bah, tu vas galérer pendant un bout de temps. Tu vas perdre un temps fou, quoi.
C'est comme en Formule 1, tout le monde.
Tu veux dire par là que vous avez le savoir, en fait, l'Angleterre.
Oui, c'est ça, le savoir. Christophe Cessieux et Pascal Duprat pour une question.
Johan, j'ai lu quelques déclats de toi. Tu disais, la voile est souvent tournée vers le passé, la poésie. C'est un peu comme le vélo, d'ailleurs. On se retourne vraiment sur son passé. Et toi, justement, tu as envie d'expliquer au grand public, qu'il n'y a pas que ça et expliquer la technologie. Et je crois que tu avais fait un podcast, où tu expliquer un peu aux gens et à ceux qui sont passionnés par ce métier tous les aspects de la course au large.
Ouais, exactement. Donc pour le Vendée Globe, alors en fait j'avais fait en 2016, mais j'avais fait à l'écrit avec des images, et en 2020 j'avais fait un live Facebook qui avait été suivi à sa petite échelle, tu vois. Mais effectivement, en fait, mon idée, c'est que aujourd'hui, on a les mots et on a les technologies pour expliquer aux gens la météo, la stratégie et tout ça. Donc, il faut les connaissances pour faire des routages. Et puis, faut trouver le langage qui va avec pour que les gens s'y intéressent. Donc, on va pas intéresser tout le monde. Ça arrivera jamais. Par contre, des gens qui ont un petit intérêt pour le sport, qui veulent suivre l'événement, qui veulent comprendre, bah, pourquoi on prend telle route, où est-ce qu'ils vont aller après. Moi, j'étais capable de leur expliquer en 2020. Alors là, je l'ai un peu fait pour me marrer sur le bateau. Là, j'ai fait quelques épisodes comme ça. Mais en fait, on parle au passé, on dit, ah oui, il a passé la tempête, machin, mais en fait, on se projette jamais, quoi. Tu vois, enfin, des fois, moi, je regarde le vélo, ils disent, bah, ça, c'est une étape qui est pour machin, quoi. C'est une étape de grimpeur, c'est une étape. Et là, en fait, on n'a rien. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve parce qu'on parle de sport. Et tu vois, j'aimerais bien qu'on fasse des débriefs sportifs de voile, des choses comme ça, tu vois. Et ça arrive doucement. On a des émissions, on a des podcasts, on a des newsletters, voilà.
Parler de stratégie, comment on appréhende une tempête et pas de l'après. C'est-à-dire que d'être sur l'instant, là, il y a une tempête, comment on fait, comment je passe, c'est comme un col de hors catégorie, c'est ça.
Bah, c'est pareil. Si tu dis, c'est une étape de grimpeur aujourd'hui et c'est pour machin spécifiquement. Moi, ça m'intéresse parce que j'y connais rien en vélo. Mais au coureur, tu l'auras pas appris. Tu l'auras pas appris que c'est ça. Et nous, on a l'impression dans le sport que on va donner la route aux gens, tu vois. Mais nous, notre travail, il est beaucoup plus fin que ça pour étudier une météo. C'est pas en faisant un routage 10 minutes et en disant bon hop, ça passe par là que je vais suivre la route que le mec a indiqué sur une page Facebook.
Sur Virtual Regatta, je regarde ça.
C'est ce que j'allais dire. Pendant 48 heures,
ça va être comme ça. Bon, je vais essayer de passer par là. Mais ça rate toujours. Hein.
Donc on est capable autour d'une émission ou d'une présentation ou d'un live d'expliquer la stratégie, de la montrer, d'expliquer la météo.
C'est passionnant.
Voilà, c'est un truc qui est passionnant.
Ouais. Pascal Duprat.
Ouais, moi un peu plus léger comme question. Toi qui as passé 65 jours donc en mer, tout seul, par rapport au monde réel, qu'est-ce qui t'a le plus manqué et à contrario, qu'est-ce qui t'a le moins manqué pendant ces 65 jours?
Je te rappelle que t'es pas rentré avant une semaine à la maison. N'oublie pas la compagne.
Normalement, vous étiez prévu 80 jours, donc tu vas gagner du temps.
J'étais pas prévu avant fin février, ouais. T'as raison.
Et on n'a pas dit l'année, hein. C'est peut-être 2020.
Je repars en vacances avec mes potes et te plains pas, je devais pas être là.
Je vais peut-être pas revenir si vite, ouais. Du coup, au-delà de la famille, on va dire bien sûr, parce que ça c'est une évidence.
Oui, oui.
Franchement, un lit qui ne bouge pas. Parce j'en avais marre des mouvements du bateau, quoi. En fait, c'est ça qui est, Enfin, je ne sais pas si y a, qui a déjà fait un peu du rallye ou un truc. Ça m'était arrivé une fois de faire un truc. Oui. Mais ça secoue de folie. Voilà, c'est pareil.
Et en fait,
j'avais mal au cerveau dans la boîte crânienne. Pas parce que ma tête tape le bateau.
Parce que,
juste faisait ça, tout le temps. Et à la fin, mais t'en as marre, quoi. T'as mal au cervical. Moi, mon ostéopathe, il m'a jamais vu comme ça. Là, il me faisait des heures et des heures de récup, tout étendu de partout. Voilà, j'ai déjà fait 4 heures. J'ai l'impression qu'on n'a rien récupéré pour l'instant. Et...
T'as le mal de terre, là, ou
non, j'ai pas eu, non.
Descendu,
non.
Bah, ça t'a un peu bougé, quand même. Hein.
Après la soirée, un peu, mais.
je prolonge la question de Pascal, parce que t'as pas encore répondu. Qu'est-ce qui t'a pas manqué?
Qu'est-ce qui m'a pas manqué l'actualité, parce que je la suivais, beaucoup, mais elle était morose. Ouais. Franchement, je trouve qu'on avait réussi notre coup. Alors du coup, je vais transformer un peu la réponse, mais il y a beaucoup d'éléments à préparer pour réussir un Vendée Globe. Le matériel de rechange, la nourriture, les fringues, emporter ce que t'aimes. Alors moi, je m'ennuie très vite, donc j'ai besoin de passer mon temps. Donc j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écouter des podcasts, j'ai même regardé un peu des films de temps en temps. Ça dépend de la météo. Et donc tout ça a été bien préparé, j'étais super satisfait, en plus d'un bateau impeccable techniquement, parce que je l'ai dit, je pense que j'ai bricolé une dizaine d'heures sur un tour du monde, alors que Michdej disait c'était une emmerde par jour. Ben, je l'ai pas du tout eu, et du coup je suis super fier du boulot qu'on a fait, et voilà, parce que notre objectif était aussi pendant 2 ans de fracasser le bateau pour le fiabiliser.
Dernière question, les copains. Je suis désolé, on aurait beaucoup de choses à demander. Je suis bien d'accord. De 2028, on te retrouve.
C'est possible, on étudie la question en tout cas.
Ok. Bah, le but, c'est maintenant, c'est de le gagner. On va pas rester sur une deuxième place.
Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Non, ce serait un autre bateau. Parce que nous, on adore ça, la techno, les prototypes et tout. Ouais, c'est génial. Ouais.
Et avec les adversaires, vous discutez par radio ou
radio aussi, très proche. Sinon, WhatsApp.
Il te donnait sa route ou pas, ton copain?
Non, on n'a pas le droit de parler.
C'est sans assistance.
Ça, c'est notre dopage, ça.
Mais vous êtes très proche avec Charlie. Vous avez été.
Ouais. Mais il ne parle pas beaucoup, alors c'est dur de dire en discussion. Non, je rigole, mais il est très sympa, toi. Mais d'autres. Voilà.
Merci beaucoup, Johan Richaume, d'être venu nous voir. Le bateau Paprec Archea. Bravo encore pour cette deuxième place. Franchement, c'est vrai que vous faites l'admiration de beaucoup des sportifs ici dans le studio RMC.
Vendée dans 4 ans avec des tempêtes à bloc, comme ça, il va pouvoir démontrer.
Montrer à Charlie Dalin qui c'est le plus fort.
Qui c'est le taulier dans la tempête.
Merci, Johan Richaume. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur RMC dans les grandes gueules du sport. Je sais pas pourquoi je vous vois alors que Jérôme, vous êtes très proche depuis tout à l'heure. Merci d'être venu nous voir. Merci. Johan, et à bientôt sur RMC. Tu reviendras dans cette émission parce que franchement, je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous dire, donc on va te réinviter.